Europe 1.
10h, 11h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour et bienvenue sur Europe 1 pour votre rendez-vous cinéma de l'été. Chaque semaine dans Clap, nous choisissons une thématique en rapport avec l'été et nous nous replongeons dans les meilleurs films faits pour le cinéma. Aujourd'hui, ce sera la plage. Didier Alouche évoquera pour nous un souvenir des Oscars à la première personne. Elsa Zilberstein et Philippe Lachaud nous diront tout des films de leur vie. Enfin, entre deux châteaux de sable, Franck Vallière et Victor Van Poy viendront nous éclairer sur les films à voir au cinéma.
Franck, il m'a piqué ma pelle et mon seau.
T'es pas prêteur.
Mais j'étais en train de faire un château, il a piqué la pelle.
C'est le monde libéral.
Vous êtes intenables, les enfants. Sinon, vous avez le temps d'aller au cinéma?
Oui, et puis il y a des choses très intéressantes, comme la nuit du 12 de Dominique Moll.
Puisqu'on est le 16, on va reparler de la nuit du 12. Il s'est passé des trucs, Laurie.
Et puis, on va devoir aussi reparler, malheureusement, d'un film de Marvel Cinematic Universe. Et puis...
C'est Thor. Quel enchantement. Voilà pour le programme de votre club qui, lui, sera au goût de Victor.
Un enchantement.
Bah, voilà pour le programme de Clap. À tout de suite.
10h, 11h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Chorel du 10. Oui, chef.
Et Franck Vallière s'est réveillé, ça c'est une bonne nouvelle. Louis de Funès, le gendarme de Saint-Tropez qui débarque sur la plage des nudistes chaque semaine cet été. Nous avons décidé en première partie de nous replonger dans des films cultes en rapport avec une thématique de l'été. Cette semaine, vous l'aurez compris, c'est la plage et le sable.
Ah, c'est bien.
Et les gendarmes de Saint-Tropez, gendarmes de Saint-Tropez.
Je comprends pas ce qu'ils ont après les nudistes, c'est sympa les nudistes.
C'est marrant parce qu'on parle alors je vais encore une fois, comme à chaque émission, parler de ma génération, de gens plus jeunes. Mais c'est marrant comme j'associe, quoi qu'il arrive, le gendarme de Saint-Tropez à l'été, parce que c'est aussi la période où à l'époque la télévision le rediffusait énormément. Ça fait partie, le gendarme et les gendarmettes, et le gendarme et les extraterrestres, etc. Ça fait partie des films les plus rediffusés de la télévision française, et pas pour rien, parce que chaque été, on avait le droit à notre diffusion des gendarmes. Et c'était mon petit moment où je me disais « Ah, je suis en vacances, il n'y a pas d'école, je vais regarder le gendarme à la maison. » Et c'était toujours un bon moment de bonheur.
C'est un bon repère, voilà. Quand c'est le Père Noël est une ordure, on sait que c'est Noël.
Exactement.
Et quand il y a le gendarme de Saint-Tropez, c'est l'été. Alors on continue, la plage, la plage de Danny Boyle avec Guillaume Canet, Virginie Ledoyen et Leonardo DiCaprio. C'était le grand retour de Leonardo DiCaprio après le phénomène Titanic.
Et c'est un film exceptionnel. Il faut le dire parce qu'aujourd'hui on a tendance à un peu critiquer certains films de Danny Boyle parce qu'il a toujours utilisé des effets un peu kitschouille, des envies, notamment dans la plage, il y a toute une scène jeu vidéo où un personnage prend des champignons hallucinogènes et pas en vrille. Et pourtant, Danny Boyle, c'est le cinéaste de l'ailleurs, c'est le cinéaste de l'expérimentation d'autres univers, et c'est ça qui me plaît justement dans la plage, c'est de voir déjà Ledoyen, Canet et DiCaprio vivre ensemble, vivre sur cette plage, rêver d'un ailleurs ensemble. Est-ce que c'est pas ça les vacances? Rêvons d'un ailleurs ensemble.
Comment on descend? C'est à moi que tu poses la question, comme si c'était à moi de tout décider.
Il faut qu'on plonge.
Mais c'est toi qui as voulu passer devant, putain!
Je suis passé devant, mec, parce que de toute évidence, t'étais pas en état de le faire.
Ah ouais, et regarde où ça nous a menés.
Moi je dis qu'on peut sauter.
Arrête de dire n'importe quoi! Françoise! Françoise!
Bon, alors on y va.
Oh putain.
D'ailleurs, Guillaume Canet et Leonardo DiCaprio sont restés pendant longtemps très très potes après avoir tourné ce film ensemble. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais voilà, c'était l'info que j'avais.
Oui, et puis DiCaprio a ensuite pécho à plusieurs reprises Marion Cotillard dans des films.
Oui, dans des films. Okay.
Dans des films, évidemment. Restons bons amis, c'est les vacances, mais quand même.
Je ne rentre pas dans la sphère privée. Oui, c'est vrai. Victor, tiens, comme je sais que vous allez bientôt partir surfer la vague avec notre ami Franck Vallière, je vous propose qu'on se replonge dans Point Break, film de Catherine Bigelow avec le tandem de choc Keanu Reeves et Patrick Swayze.
Ça, c'est Body. Il se fait appeler Body, ça te va? Mystique sauvage. J'enquête.
Et t'enquêtes de quoi?
De la vague. De la vague métaphysique.
Ça, c'est quelque chose, ça.
Ah, bah ça.
Franchement.
Réalisé par Catherine Bigelow. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier film d'action thriller crypto-gay.
Oh non, il y en a eu beaucoup d'autres avant. Mais c'est vrai que oui, moi je ressens beaucoup de désir pour Keanu Reeves et Patrick Swayze quand je regarde le film. Oui, ça c'est certain.
Et c'est grâce à l'invention de Catherine Bigelow. Si ça avait été un homme, ça aurait été une relation purement masculine. Alors que là, il y a presque du désir sentimental entre ces deux hommes. C'est de l'admiration, c'est presque une relation amoureuse.
Le Patrick Swayze qui nous manque quand même énormément.
Tout à fait.
Franck, je sais que cette thématique vous a bien inspiré. Donc si je vous dis plage, sable, vous me dites...
Eh bien, il y en a plein. Mais l'année des méduses, par exemple. Oui. Ah, l'année des méduses. Alors
c'est
ça,
votre côté sombre, hein, ça.
Pourquoi sombre ? C'est pas si sombre que ça. C'est l'été. Alors l'été, c'est quoi ? C'est être en maillot ou à poil. Mais c'est laisser les désirs s'éveiller. Là, on parle quand même de... Alors Bernard Giraudot et Caroline Sellier, qui étaient tous les deux des monuments de beauté à l'époque. Et puis, on a quand même Valérie Caprisky au milieu, qui était quand même juste un avion de chasse. Hein. Et là, c'est... tout un pan du désir estival confronté aux rivalités, à la famille, la Côte d'Azur. On est dans la brillance et l'extrême noirceur, car au final, ça ne va pas finir bien,
non,
effectivement.
Non,
oui.
C'est assez dark hein, quand même.
Oui, mais est-ce que ce qu'on ne voit pas ça sur beaucoup de plages, particulièrement de la Côte d'Azur, peut-être un peu moins en Bretagne ? Je sais pas.
Non, on ne va pas sur les mêmes plages. Hein.
Vous déjeunez toutes les deux ?
Avec Romain.
Ce soir, c'est nous deux. Sinon, je dis tout à mon père.
Il vaut mieux ne pas dire à ta mère que j'ai appelé.
16 ans, tu te rends compte ?
Ouais, tu t'es fait piquer par une méduse, tu vois ?
Alors la plage c'est sympa, mais quand on est échoué, seul au monde, dirigé par Robert Zemeckis, c'est quand même un peu plus compliqué. Je parle évidemment du film avec Tom Hanks, film culte des années 2000. Tom Hanks qui joue le rôle de Chuck, un cadre américain qui suite à un crash d'avion doit survivre seul sur une île déserte. C'est moins sympa quand même.
Bah, ça dépend s'il est bien accompagné. Là, en l'occurrence, il a un ami ballon qui est pas mal, quand même.
Oui, mais
un ami imaginaire.
Il a son copain le ballon.
Mais qui va mourir.
Non, hey, faut pas dire.
Ah, non.
Mais ça... oh. Seul au monde, tout le monde l'a vu.
Oui, mais bon, quand même, c'est triste.
C'est très, très triste.
Wilson, je suis désolé. Excuse-moi, Wilson. Excuse-moi! Wilson! J'y arrive pas! Wilson! Wilson!
J'en ai la chair de poule. Non mais quel acteur quand même, Tom Hanks.
Et quel acteur Wilson le ballon.
Et quelle musique d'Hans Zimmer.
Oui.
Et quelle musique d'Hans Zimmer, c'est vrai. Alors plus récemment, et là pour le coup, hein, nous sommes dans la thématique de la plage et du sable, il y en a à perte de vue, Dune de Denis Villeneuve, adaptation du célèbre roman de Frank Herbert avec Timothée Chalamet, la star du moment. On en a beaucoup parlé dans l'émission, hein. Victor aime énormément Dune.
Oui, j'ai beaucoup de sympathie
un
pour
peu
le
moins
film.
Maintenant
ah, c'est... J'essaie de le décanter un petit peu dans mon esprit. Et puis surtout, quand j'ai suggéré Dune pour cette partie, c'est étrange comme le premier qui m'est venu à l'esprit, c'était aussi le Dune de David Lynch. C'est-à-dire que voilà, dès qu'on parle de Dune, il y a forcément cette planète, il y a ce sable omniprésent. Oui, oui, Dune, évidence, si on me parle de la plage, du désert aride et du besoin de respirer à tout prix de la flotte pour pouvoir survivre un petit peu. Quoi.
Puis le vrai talent quand même de Villeneuve, c'est d'avoir réinventé le fil à couper l'eau chaude quand même, parce qu'il y avait l'univers Star Wars, on va dire, pour des déserts, etc. Mais là, il a réinventé une tessiture, il y a quelque chose dans son cadre qui rend la chose véritablement unique.
Surtout, le film dure quoi, 2h30, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, tout à fait.
Ouais,
mais
plus,
2h30, alors que voilà, il se passe pas grand chose en
bah,
vrai.
C'est un
mais
peu
on s'ennuie
mon...
pas.
Ma réticence du
grand chose en vrai.
Bah ouais, avec du recul, ouais, quand même.
Mais
c'est une grosse intro.
Non, mais justement, il arrive à nous tenir et à nous captiver avec une atmosphère, avec une mise en scène époustouflante. Mais bon, si on résume, à la fin, il ne s'est pas passé grand-chose.
Il faut quand même délayer. Il y a le 2 qui arrive.
Ah bah voilà, bah voilà. Bien sûr. Non mais on aime, hein.
on
aime beaucoup
d'une.
Mais on ne peut pas dire, voilà, c'est
en
pas James Bond.
Attendant,
hein,
je
ne
veux pas aller me baigner s'il y a des vers comme ça dans le sable.
Moi non plus. Bon, on pourrait évoquer tellement de films, hein, évidemment, mais rapidement, émotion. Le bouleversant film de François Ozon, Sous le sable, avec Charlotte Rampling. Drame psychologique, une femme qui
doit faire
face... Il y a
moins de gros vers dans celui-là.
Oui, il y en a moins, mais elle doit faire face à la disparition mystérieuse de son mari, Franck.
Oui, bah, c'est la reconstruction d'une femme. François Ozon prend le temps de filmer la détresse et le déni, puis l'acceptation de toutes les phases qui relèvent du deuil. Et Bruno Clémer, quand on aura vu peut-être 2 minutes et demie dans le film, je crois.
Ouais, oui, bah, parce qu'il
mais
disparaît.
En même temps, Charlotte Rampling est tellement sublime dans sa tristesse infinie.
Franck, vous aviez envie de nous parler de Respiro.
Oui, ah oui, Emmanuel Krielaez, pour finir sur une bonne note quand même un peu positive. Emmanuel Krielaez avec... quand même, le portrait d'une maman qui, avec ses trois filles sur l'île de Lampedusa, qui n'a rien à voir, hélas, avec ce que décrit le film, c'est-à-dire on est là dans l'écrasante chaleur sicilienne, etc., alors que c'est maintenant devenu un des points d'entrée pour les migrants, donc c'est devenu un truc très très compliqué, Lampedusa. Et Valeria Golino joue le rôle d'une mère extravagante, tellement extravagante qu'on va essayer de la mettre en asile psychiatrique, mais ça ne va pas se passer comme, heureusement pour elle, comme ça devrait. Et c'est un portrait de femme incroyablement chaleureux, on est bien, ça se fini dans l'eau matricielle. Ah, c'est un bonheur ce film. Et puis,
Ah, il est exalté.
Ah, c'est un bonheur ce film, Respirons.
Allez, on part maintenant direction Los Angeles pour la chronique de l'été de Didier Alouche qui se remémore pour nous les meilleurs moments des Oscars, mais à la première personne, vous allez comprendre. Écoutez-le.
Salut Laurie, salut à tous. Cette semaine, dans notre série des grands moments des Oscars à la première personne, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un film vainqueur de la statuette ultime pendant 2 minutes et 54 secondes.
And the Academy Award for Best Picture.
La La Land.
Nous sommes le 27 février 2017, il est un peu plus de 20h30 à Los Angeles, la cérémonie des Oscars touche à sa fin. Une chouette cérémonie, même si elle avait pris un petit côté décevant pour nous puisque quelques instants plus tôt, Isabelle Huppert avait perdu. Elle était en course pour l'Oscar de la meilleure actrice pour Elle, le film de Paul Verhoeven, elle perdra face à une autre rousse, Emma Stone, pour La La Land. Déçue donc pour Isabelle qui avait été si charmante et généreuse pendant la campagne. Elle m'avait accordé de longues interviews, raconté toute la belle aventure qu'elle vivait grâce au film de Verhoeven, m'a parlé de son immense carrière, une femme étonnante, une actrice gigantesque, une personne adorable. J'aurais vraiment aimé qu'elle gagne, ça s'est joué à quelques voix paraît-il. Nous étions donc toutes à notre déception quand l'un des plus grands ratés de l'histoire des Oscars s'est déroulé sous nos yeux. Warren Beatty et Faye Dunaway, Bonnie and Clyde avec quelques années de plus, sont sur scène pour annoncer le meilleur film. Faye Dunaway hurle donc « La La Land ». L'équipe s'embrasse, monte sur scène, commence ses discours. Mais en arrière-plan, sur la scène du Dolby Theater, il y a de l'agitation. Qui sont donc ces officiels qui viennent lire et relire le carton avec le nom du vainqueur sorti de l'enveloppe ? Pourquoi les producteurs de La La Land se passent cette enveloppe avec des têtes aussi incrédules ? On sent qu'il se passe un truc.
This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture.
Et 2 minutes 54 secondes précisément après que Faye Dunaway ait annoncé La La Land en meilleur film, Jordan Horowitz, l'un de ses producteurs, passe au micro et annonce que le vrai vainqueur de l'Oscar, c'est Moonlight. Personne n'y croit au début, il faudra un gros plan sur le carton avec le titre Moonlight pour que tout le monde se rende compte que nous venions d'assister à la plus grosse boulette de l'histoire des Oscars. La raison de l'erreur ? Elle est toute simple, on s'est trompé d'enveloppe. On a donné aux annonceurs non pas l'enveloppe annonçant le meilleur film mais l'enveloppe de secours pour la meilleure actrice. Et Faye Dunaway, n'ayant pas ses lunettes, elle n'a lu que le mot qu'elle arrivait à voir, La La Land, écrit en gros et pas le nom de Emma Stone écrit au-dessus en bien trop petit. C'est tout bête, mais ça a permis à La La Land d'être le vainqueur le plus éphémère de l'histoire des Oscars.
Merci beaucoup Didier, à la semaine prochaine. Dans un instant, Elsa Zilberstein et Philippe Lachaud nous parleront des films de leur vie. A tout de suite sur Europe 1.
10h, 11h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous à l'écoute de Clap sur Europe 1. Je suis ravie de vous retrouver pour nos émissions de l'été. Alors, au cours de la saison, si vous nous avez suivis, vous savez que j'ai eu le plaisir de rencontrer celles et ceux qui font le cinéma et surtout d'évoquer avec eux les films de leur vie. Et cette semaine, on découvre la filmographie d'Elsa Zilberstein. Elsa, le cinéma est entré tôt dans votre vie, non ?
Ouais, à 17 ans et demi, ouais.
Alors, si je vous demande votre meilleur souvenir de cinéma ?
Il y avait plusieurs souvenirs, mais je ne sais pas pourquoi. Au cinéma, j'ai un souvenir au Max Linder de la projection du piano de Jane Campion. Oh, j'étais sortie de là, je me disais non mais je ne peux même plus sortir dessus. Quoi. Je voulais rester à la deuxième séance et d'être dans un coton, dans une atmosphère absolument folle. J'avais aussi ça pour Breaking the Wave. Je me souviens des films comme ça qui t'emportent et où tu veux plus sortir.
La leçon de piano qui est restée pendant longtemps l'unique palme d'or décernée à une femme au Festival de Cannes jusqu'à cette année.
Ouais.
Parce qu'on rappelle que c'était Titane de Julia Ducournau. C'est vrai que c'était un film magnifique.
Extraordinaire. Qui vieillit pas. D'une sensualité, d'une intelligence, d'une beauté, d'une violence. C'est un grand, grand film.
Et vous l'avez vu au Max Linder, qui est donc une salle parisienne. Ouais. Et c'est l'un des plus beaux écrans de France. Hein.
Voilà.
Votre première grande émotion au cinéma ?
Dans ma chambre de petite fille, j'étais tombée sur Adèle H. J'avais vu Adjani jouer, François Truffaut. Et je m'étais dit, c'est ça que je veux faire. J'avais vu
C'est ce qui vous a donné envie de faire du cinéma ?
Je crois que c'est une des scènes, quand je l'ai vue jouer, certaines scènes de ce film, elles me parlaient. Je me suis dit, c'est cristallin, c'est passionné, ça va au cœur, comme presque une sculpture de Giacometti. On est à la racine, on est dans la vérité, on est dans un truc absolument fabuleux qu'elle transmettait.
C'est un film déchirant. Elle joue la fille de Victor Hugo qui était atteinte d'érotomanie. L'érotomanie, c'est quand on a l'impression délirante d'être aimée par quelqu'un.
Ouais.
Elle sombre dans la folie, elle est isolée.
Elle écrit des lettres à cet homme, le docteur Pinson. J'avais même travaillé une scène au cours de théâtre Cours Florent.
Et vous étiez toute jeune à l'époque.
Ouais, j'avais 17 ans et demi.
Le film que vous revoyez sans cesse ?
Moi, c'est Chantons sous la pluie, que je regardais tous les mercredis en rentrant de l'école. Alors, à partir de 14 ans, je ne peux pas vous dire pourquoi, j'étais bien dans ce film. Je ne voulais pas en sortir. Moi, j'ai fait beaucoup de danse classique, donc, je rêve un jour de faire une comédie musicale. J'adorais Debbie Reynolds, j'aimais leur amitié, comment le matin ils se réveillaient, tout était gai. En fait, c'est un film qui donne envie d'être dans le film, alors là, pour le coup.
Oui, ouais. C'est vrai que c'est un film où il fait bon vivre. On peut y être.
Cathy Seldon, comment il la rencontre, comment elle tombe dans sa voiture. D'un coup, elle rencontrait la star, Jane Kelly. Je sais pas, ça me faisait totalement rêver.
La musique.
Glorious day.
I'm laughing in the clouds. C'est vrai que je vous verrais bien dans une comédie musicale.
J'adorerais.
Bah pourquoi ça ne s'est jamais fait ?
On m'en a jamais proposé.
C'est vrai ?
Non.
C'est dingue ça.
Ouais.
Bon. Alors voilà, affaire à suivre.
Voilà, exactement.
Le film que vos parents ont eu raison de vous faire découvrir ?
La Grande Vadrouille.
Mmh.
Ça, c'est mon papa. Souvent, il nous a montré ça. Et puis, on se tapait la tête contre les canapés quand tellement je riais. Et c'est devenu même dans notre famille, ce film, on peut même citer. Bah non, c'était pas 4 ans la guerre, c'était 4 ans. Des fois, d'un coup, sorti de nulle part, on se met à dire des répliques de ce film avec mon père. Quoi. Donc,
c'est génial.
C'est un film vraiment mythique dans notre famille.
Mais c'était le plus gros succès du cinéma français pendant tellement longtemps. Ouais. 17 millions de spectateurs. Ensuite, ça a été détrôné par Les Ch'tis, puis par Intouchables. Mais c'est vrai que c'est resté.
C'est un chef-d'œuvre, quoi. Vélo, mes chaussures.
Oui, c'est ça.
Tout. C'était un doudou aussi de se retrouver dans ce film.
Je suis une malade. Me for two, I'm two for two. And you. Where is the big moustache?
Dans le sauna, ça, dans le hammam.
I don't understand.
C'est génial.
Plus largement, vous êtes fan de Louis de Funès ?
Fan absolu. Génie absolu. Génie du jeu.
Le film de votre adolescence ?
J'ai dit Pulp Fiction. Parce que d'un coup, c'était waouh. Puis j'avais fait les essais. En fait, à 19 ans, j'étais à New York.
C'est vrai que j'ai lu
ça. J'ai fait les essais de Pulp Fiction. J'ai pas été retenue pour le rôle de Maria de Medeiros. Et c'est un film qui m'a foutu un coup tellement je trouvais ça génial.
C'était
la
très nouveau.
La modernité, même le début dans le bar et tout. Hello, it's a robbery. Comment ça part, comment la violence du truc, les personnages libres, fous. Enfin, je trouve le film hallucinant.
Palme d'or à Cannes.
Ouais, exactement.
Ouais, c'était
et puis, Les uns et les autres de Claude Lelouch, parce
Bien
que
sûr.
J'ai une passion Claude Lelouch. Oui. Et
c'est une rencontre importante dans ma carrière, dans ma vie.
Voilà. Et Les uns et les autres, c'est un des films qui m'a donné envie de faire du cinéma. Que je voyais à la télévision pour le coup avec mes parents, et puis que je faisais beaucoup de danse classique, cette petite russe qui dansait, qui se regardait dans le miroir, qui avait envie de quitter la Russie, d'aller en Europe. C'était absolument brillant et c'est un film qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence.
Et la musique, alors maintenant, on va passer dans une autre émotion, mais la musique qui vous met de bonne humeur ?
J'ai envie de dire La La Land, parce que j'adore me réveiller, mettre ça. Dès que j'entends ça, c'est gay.
Ah bah ça donne une bonne impulsion.
Le film de Damien Chazelle, que j'adore. Voilà. You got the invitation, you got the right address. You need the medication, the answer's always yes. A Là tout de suite, hein, on a envie d'aller prendre une douche, de sauter dans un peignoir, voilà. J'adore. C'est magique. Et puis ça continue sans fin, quoi. Ça donne envie de revoir le film, tiens. J'écoute beaucoup de musique quand je tourne, en fait. En fait, quand je me concentre, j'écoute de la musique. Bon, Elsa, la conclusion, c'est que déjà, c'est très agréable de vous écouter parler cinéma d'avoir quelqu'un, on sent votre amour sincère pour le cinéma et pour ceux qui le font. Ouais. Et ensuite, il faut vraiment tourner dans une comédie musicale.
Oh, c'est trop super ce que vous me dites. Non, il y a longtemps, j'avais été contactée, mais non, ça ne s'est pas fait. Ah oui, quand j'ai revu... En plus, quand j'ai vu La La Land, je me dis... Et même, tout le monde dit I love you de Woody Allen, pareil. Et je trouve que quand c'est réussi, mais c'est absolument... Et ça transmet des émotions fortes, et ça parle du monde, de la vie. Et je pense que t'es aussi émue que si c'était une scène simple où il n'y a pas de musique.
Complètement.
Quand c'est réussi.
Et il y a de plus en plus de comédies musicales en France. Donc,
regardez Jacques Demy, ce qu'il a fait, c'est absolument prodigieux. La scène quand t'es sur le quai de la gare, quand non, je ne pourrais... c'est absolument merveilleux.
Restez bien à l'écoute de Clap. Dans un instant, on va tout savoir des films de la vie de Philippe Lachaud. A tout de suite sur Europe 1.
10h, 11h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, c'est Clap qui continue. Je suis ravie de vous retrouver pour nos émissions de l'été. Tout au long de la saison, nous avons rencontré celles et ceux qui font le cinéma. Et j'ai eu le plaisir de les questionner sur les films de leur vie. Pour cet été, nous avons condensé le meilleur. Tout de suite, voici les réponses de Philippe Lachaud. Si je vous demande votre première grande émotion au cinéma.
C'est le tout premier film que j'ai vu. Je crois que j'ai vu un des plus grands films de cinéma de tous les temps, enfin selon moi. Ça a été E.T. Voilà. Mon père m'a emmené voir E.T. et j'ai commencé par un chef-d'œuvre ultime avec pour moi le plus grand réalisateur de tous les temps, Steven Spielberg. Oh là là, j'ai vu cette musique. John Williams, pareil, génie en fait, génie de la musique, génie de la réalisation. On passe par toutes les émotions avec ce film.
C'est vrai, il y a tout. Sans trahir nos autres invités, c'est un film dont on nous parle à peu près toutes les semaines ce questionnaire.
C'est normal.
C'est là où on voit la force du film qui ne vieillit pas et à quel point il a marqué toutes les générations. Ce soit Claude Lelouch ou vous, voilà, tout le monde nous parle d'E.T. C'est un film de 1982, c'était aussi les débuts de Drew Barrymore. On la découvre pas dans ce film-là, mais ça fait partie de ses premiers films. Et c'est vrai qu'il y a tout. Il y a la tolérance, il y a l'amitié, l'enfance.
Il y a tout. Et ce qui est incroyable, parce que pour m'intéresser pas mal à la carrière de Steven Spielberg, c'est qu'au tout début de E.T., il n'y avait pas d'extraterrestres dans le scénario. Dans ce que voulait raconter Steven Spielberg, c'était vraiment un film. Steven Spielberg avait a manqué de son père étant jeune. Et en fait, c'était ce sujet-là qu'il voulait traiter avant tout. C'est comment un enfant dont le père est absent va pouvoir trouver un moyen pour...
se construire.
Exactement. Et c'est après qu'est venue l'idée de l'extraterrestre. C'est fou.
Génial, il a bien fait.
Ouais.
Succès immédiat, sa sortie d'ailleurs. Votre meilleur souvenir de cinéma ?
Ah, j'en ai plusieurs. Meilleur souvenir, je peux redire E.T.
Bien sûr.
mais après, les claques que j'ai prises, alors en comédie, ça va peut-être être Le Dîner de con, Marais tout prix, Les Trois Frères, Seven, je suis un fou de Brad Pitt, j'adore David Fincher, Braveheart de Mel Gibson. Tout ça, c'est des claques que je me suis prises et des films. En fait, c'est un peu comme les moments importants de la vie. Je me rappelle où j'étais assis, dans quel cinéma, dans quelle salle.
C'est des films qui marquent. Et vous nous aviez dit Titanic.
Et Titanic, mais évidemment.
Titanic
que j'ai vu à Paris 2, au Chênay, voilà, avec ma première petite copine, Véronique. Et pareil, c'est un chef-d'œuvre ultime. C'est extraordinaire. Et pareil, la musique aussi. Chaque chef-d'œuvre, généralement, on s'aperçoit que voilà, la musique joue un rôle très important.
Ça fait partie de ces grands films où tout est sublime. La BO, la mise en scène, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, au summum de leur beauté, de leur jeunesse, de leur talent.
Et je suis très fier parce que je considère que Kate Winslet fait un peu partie de mes ex. Parce qu'à l'époque de Canal+, j'avais fait un sketch où j'étais déguisé en Leonardo DiCaprio qui était resté 20 ans sous l'eau. Donc j'arrivais sur le plateau avec les dents pourries.
Un peu défraîchi.
Un poulpe dans le froc, trempé et tout. Et il y avait Kate Winslet en plateau et je lui fais une déclaration d'amour. Et à la fin, je tente et je dis « Kate, kiss me » parce que je suis censé être Jack, comme Jack Dawson. Et truc de fou, elle m'a fait le bisou.
Oh, super.
Donc, je considère que Kate Winslet fait partie de mes ex.
Surtout voilà. Kate Winslet, c'est quand même la grande, grande classe.
Ah oui.
Votre séance de cinéma la plus dingue ?
La plus dingue ?
À Los Angeles ?
Ah oui, bien sûr. Merci de m'appeler mes propres souvenirs. Oui,
je
oui,
lis
oui.
dans vos pensées.
Non, en fait, je suis allé à Los Angeles et je suis allé au cinéma et j'ai découvert quelque chose qu'on n'avait pas en France, ou en tout cas, je ne suis pas au courant, où en fait, tu as des serveurs, pendant que tu regardes le film, qui viennent t'apporter, tu passes une commande, comme au restaurant.
Ah, il y a ça au Brésil aussi.
Ah oui, et ils t'apportent une pizza, un plat, tu commandes et du coup, ils sont là. Donc, ça, des fois, ça te sort un peu du film, forcément, parce que tu vois le serveur oui. passer, il vient prendre ta commande et tout. Mais j'ai trouvé ça assez original et assez chouette. Et je me rappelle, c'était le film Kidnap avec Halle Berry, que je conseille, qui est génial.
Donc un ciné-resto.
Ouais.
Le film qui vous fait le plus rire ?
Je dirais, y en a deux. Le Dîner de Comte, Francis Weber, pour moi, c'est une leçon de cinéma. Si quelqu'un veut faire de la comédie dans la vie, pour moi, il faut lui montrer Le Dîner de Comte et il aura tout compris. Et après, dans un autre genre qui n'a rien à voir, effectivement, c'est... comme je disais, Marie à tout prix, des frères Farrelly. Ce qui est incroyable avec ce film, c'est qu'ils vont tellement loin dans les blagues, où on se dit, c'est pas possible. À l'écrit, tu te dis, mais personne va prendre du sperme pour se coiffer et se faire une mèche. T'imagines le truc à l'écrit.
La
et
scène
au final,
du gel, oui.
Ça reste culte.
C'est quoi ça? Sur ton oreille.
Mon oreille?
Non, la gauche. C'est du gel?
Ouais.
Génial.
Non, fais pas ça. Non,
mais je t'assure, ça tombe bien, j'en avais plus.
C'est fou. Et il y avait aussi les...
C'est la voix de Cameron Diaz avec Ben Stiller et Matt Dillon.
Évidemment. Et il y avait aussi, c'est vrai, les trois frères avec Didier Bourdon, Bernard Campanbert et Pascal Légitimus.
Les Inconnus.
Et aujourd'hui, du coup, tourner avec Didier Bourdon dans certains de nos films, on le regarde avec des étoiles dans les yeux.
Votre comédie romantique préférée ?
Alors, on va dire que je suis peut-être pas objectif, mais pour moi, c'est L'Arnaqueur. Alors, je joue dedans.
En fait, c'est vrai.
Mais oui, je dis à tout le monde que j'ai le premier rôle parce que je suis le premier qu'on voit dans le film.
C'est
donc,
vrai.
On voit
avec,
deux minutes.
Donc, Romain Duris, Vanessa Paradis.
Mais l'idée que je trouve géniale, la mise en scène de Pascal Chaumeil, super, les acteurs, les actrices, incroyable. Et très très drôle, François Damiens, Julie Ferrier. Non, et vraiment, c'est pas parce que je fais une petite apparition dedans, je trouve que c'est un petit bijou ce film et la meilleure comédie romantique française qu'on ait, c'est sûr.
Vous êtes marié ?
Je suis célibataire.
Ah, ça m'étonne pas.
Ça t'attend que ça ?
Ça sent plutôt. Si vous étiez marié, votre femme vous aurait dit qu'après le roquefort, il faut se laver les dents. Ah oui, à propos, vous ronflez.
Vous aussi.
Ah oui, c'est vrai que c'est très réussi, L'Arnaqueur. Le film que vous conseillez à un enfant, j'étais contente que vous marquiez ça.
Le film que je... Ah oui, L'Histoire sans fin.
C'est magnifique.
L'Histoire sans fin. Alors, pour plusieurs raisons, parce que L'Histoire sans fin, donc pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, en fait, c'est l'histoire d'un jeune qui va lire un livre dans une bibliothèque et toute cette histoire va découvrir cette histoire d'Atreyu, un espèce de conte. Et c'est ce film qui m'a donné envie de lire, en fait. C'est-à-dire que j'aimais pas lire. Bon, j'aime toujours pas trop lire, je dis la vérité. Mais à cette époque, je le voyais lire et du coup s'imaginer cette histoire magnifique avec son cheval, voyager.
La créature, c'est une créature blanche, mi-cheval, mi-chien, on sait pas trop.
Et c'était... Ça donne envie de lire, ça fait rêver, ça fait partie des contes un peu incontournables, je trouve.
Ah, c'est une magnifique épopée. Montrez-le à vos enfants. Le film que vous avez le plus vu ?
C'est Seven de David Fincher. Je suis complètement fan de Brad Pitt, mais complètement. Un jour il meurt, même si un jour il m'a refusé une photo. Mais
je me souviens de cette anecdote.
Oui. C'est pas grave. Je suis quand même fan de lui et voilà, j'ai découvert Brad Pitt, j'ai découvert le cinéma de David Fincher, j'ai pris une claque pareil.
Ah, c'est le meilleur thriller pour moi.
Incroyable. Je suis d'accord. Le meilleur, la lumière, tout, cette ambiance. C'est un chef-d'œuvre pour moi et j'avais vu aussi une interview de Brad Pitt où je crois que lui aussi disait que c'était pour lui le film le plus abouti de tous les films qu'il ait fait.
Ah bah, il est incroyable. Et puis il vieillit pas. Moi aussi, je l'ai revu récemment. Il vieillit pas, il fait peur, il est prenant, il est malsain, il est tout ce qu'on veut.
Ah, je le mets dans les chefs-d'œuvre.
Et pour terminer, Philippe Lachaud, quel serait le titre du film de votre vie ?
Vite et rêve. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que...
C'est votre mantra.
Ouais, c'est ça. C'est enfant, voilà. J'avais ce rêve de faire des films, d'essayer de faire rire les gens. Et voilà, aujourd'hui, j'ai la chance, parce que j'y ai cru, parce que j'ai pas lâché, parce que ça a été très compliqué. Il y a des moments où tu penses à arrêter et faire autre chose parce que, et au final, faut pas lâcher.
Donc ça peut être vite et rêve ou toujours y croire.
Toujours y croire, la suite. Toujours y croire.
Ne bougez pas, Clap revient dans un instant avec Victor Bonnefoy et Franck Vallière. Je vous dirai tout sur les films à découvrir ce week-end au cinéma.
10h, 11h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap et c'est l'heure du journal des sorties. Alors cette semaine, les garçons, c'est Franck Vallière et Victor Bonnefoy.
Oui, c'est nous, tout à
nous
fait.
Nous avons rendez-vous avec le plus grand menteur de France.
C'est pas moi.
Non. Enfin, je ne sais pas.
Ah, Tariq Boudali. Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est ça. Mais aussi avec les nouvelles aventures du dieu du tonnerre, on vous parlera d'un polar saisissant, d'un thriller iranien absolument palpitant et pour les enfants, restez bien jusqu'à la fin puisque on évoquera la sortie de Duc Aubu, président en compagnie d'Elysée Moon. Mais on commence avec la comédie Menteur. Nous avions reçu il y a quelques semaines Olivier Barou dans l'émission à l'occasion de la sortie de ce nouveau film. C'est l'histoire à Nice de Tariq Boudali qui joue un menteur compulsif. Chaque parole est un mensonge. Mais ça ne le dérange pas jusqu'au jour où, un problème, hein, tous ces mensonges deviennent réalité. Et là, c'est nettement moins drôle. Au casting, on retrouve aussi Artus, Pauline Clément ou encore Bertrand Huskla.
Caroline, ça reste entre nous, mais je dois donner un rein à mon frère. Je vous trouve très agréable. Il y a un vrai feeling entre nous, non?
Ouais. J'ai rencontré la traductrice.
Ouais, et?
Elle est amoureuse de moi.
Tu peux pas continuer à mentir comme ça.
Je vois pas ce que tu veux dire.
Un jour, Jérôme, tu vas raconter le mensonge de trop.
Ah, c'est quoi ça?
T'as raconté combien de mythos? C'est dingue, ça! Tu peux pas t'en empêcher, hein!
J'ai fait une radio ce matin. J'ai trois, hein. Ça n'existe pas. J'ai regardé dans le règne animal, y a pas un putain de poisson, pas un putain d'oiseau qu'à trois.
Et Franck Vallière, vous avez beaucoup aimé.
Oui, parce que ça permet de découvrir un autre Tariq Boudali qu'on avait l'occasion de voir avec sa bande jusqu'à présent. On le connaissait, on avait l'impression de le maîtriser. Et en fait, on découvre une autre façon de jouer parce que dirigé par Olivier Barou, il l'amène ailleurs. Et c'est pas qu'il jouait mal avant, c'est juste qu'il joue différemment sous la tutelle d'Olivier Barou. Et accessoirement, tous ces pipeaux qui deviennent réalité l'amènent à un moment donné vers le drame, puisque pour draguer les filles, il disait qu'il était maltraité par ses parents. Et quand il se pointe chez ses parents le maltraitent. Ça, le film tourne autour d'une émotion qui va d'ailleurs devenir l'un des points d'appui du prochain film d'Olivier Barou, mais ça on en parlera plus tard. Donc le casting est impressionnant parce qu'il mélange toute la hype de la poilade en gros, et en fait on rigole bien, c'est beau, c'est bien foutu, allons-y.
Et on continue notre tour d'horizon avec un très beau polar, La nuit du 12 de Dominique Moll. Le film était présenté dans la catégorie Cannes Première cette année au Festival de Cannes. C'est le récit d'une enquête policière épuisante, physique et mentale sur le meurtre de Clara, une affaire qui obsède Johan, un enquêteur de la PJ de Grenoble.
Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper.
Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile.
En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. Hein. Commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières.
C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles?
À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante.
J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend haineux.
Victor?
Ben, j'aime beaucoup La Nuit du 12. C'est toujours compliqué de défendre ce genre de film alors qu'on est en plein été et qu'on se dit, ben voilà, est-ce que j'ai envie d'aller voir des histoires aussi sombres? Ben, moi, je vous encourage à aller voir vraiment La Nuit du 12, tout simplement parce que c'est un acte désespéré, comme il y en a eu plein dès le carton d'intro du film. On nous annonce que chaque année, il y a une partie des crimes qui ne seront jamais résolus. Mmh. Et qu'on va nous raconter l'histoire d'un crime qui ne sera pas résolu. Donc ne partez pas en tête de vous allez mener l'enquête. Dès le départ, on vous annonce, vous ne saurez pas qui est l'assassin de la jeune Clara. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est de voir des gens se battre corps et âme, et des gens qui vont se battre même cet été pendant que nous on s'est tranquille sur les plages, qui vont continuer à se battre corps et âme pour essayer de savoir si, oui ou non, ils vont réussir à trouver la personne. C'est brillamment mis en scène par Dominique Moll, Bully Lanner, c'est touchant à crever en compagnie de Bastien Bouillon. Vraiment, il faut voir La Nuit du 12, c'est un très très beau moment de thriller au cinéma et surtout de thriller franco-belge, quoi. Ouais. Allez-y.
Et c'est le deuxième film qui suit donc Seul les bêtes de Dominique Moll, où il s'attelle à des problèmes sociétaux, et en fait, il a arrêté un certain manichéisme un peu mental pour s'attacher à des phénomènes de société, et là, il a un talent, mais de malade. C'est un film presque majeur de cette année. C'est pas tellement une enquête policière, c'est la plongée au cœur de deux personnes obsédées par l'enquête. Il y en a un qui représente Bully Lanner, représente l'œil du public, c'est-à-dire le fait d'être complètement ahuri et stupéfait
dans l'émotion, en fait.
Dans l'émotion. Et Bastien Bouillon, qui est exceptionnel, qui est tout en poker face, mais progressif.
Pragmatique.
Voilà, il est chef de cette brigade et en fait, il ne laisse quasiment rien apparaître, mais à part quelques petites mimiques sur son visage. Et finalement, la thématique du film, par-delà le fait divers, c'est quoi le problème qu'ont les mecs avec les filles? Et il est dit à un moment dans le film, et si ça se trouve, comme on ne trouve pas le coupable, si ça se trouve, c'est tous ces hommes-là, parce qu'ils sont pleins de mecs potentiellement coupable, sauf qu'on ne saura pas qui c'est. C'est le fait divers, c'est l'horreur au bout du doigt, au bout de la rue. C'est phénoménal. C'est très réussi ce film, vraiment.
Alors on continue et là on part, la transition est difficile, hein, dans un tout autre registre pour le plus grand bonheur de Victor Bonnefoy.
Ah bah oui.
La grosse sortie de la semaine, pour tous les fans de Marvel en tout cas, c'est bien sûr Thor. Alors Thor, c'est le quatrième film solo sur le dieu du tonnerre interprété par Chris Hemsworth. Thor Love and Thunder, c'est un film assez différent des autres puisque cette fois Thor ne veut plus être un super-héros. Il est en quête de paix intérieure, mais ça va quand même se compliquer, hein, rassurez-vous, puisqu'il y a quand même un gros méchant intergalactique qui veut exterminer tous les dieux qui va se pointer.
Ma carrière de super-héros est terminée.
C'était mon premier méchant.
On n'oublie jamais sa première fois.
Victor Bonnefoy.
Bon, alors on va essayer de resituer d'où je parle, déjà.
Bon, déjà, est-ce que vous avez déjà aimé un Marvel?
Ben oui, mais plus d'une fois. Et non, et puis surtout, je vais même être très honnête, le film est réalisé par Taika Waititi, quelqu'un que j'aime beaucoup. Qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui avait notamment fait Jojo Rabbit, qui avait notamment fait le précédent film Thor, Thor Ragnarok, qui est un vrai bon film, parce qu'il faut le dire, Thor Ragnarok est un vrai bon film. Donc déjà, moi je pars en me disant c'est le nouveau film de Taika Waititi et la suite d'un film Thor que j'ai beaucoup aimé. Mais et en plus, il y a des personnages des Gardiens de la Galaxie à l'intérieur. Et le méchant, c'est Christian Bale. Les planètes s'alignent, j'ai envie de voir ça.
Et Nathalie Portman aussi.
Et il y a Nathalie Portman qui revient, qui est toujours aussi magnifique, je l'aime. Bref. Et le film se lance, et je me rends compte que Taika Waititi, en faisant Thor Ragnarok le précédent, a tout dit. Et c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'il a tout dit du personnage, et donc il sait plus trop quoi faire de ce perso. Et donc il va faire une sorte de redite, il va refaire un peu « Ah, vous avez aimé tel plan dans Thor Ragnarok, bah je vous refais le même ici ». C'est un peu que de la citation, et en fait ce qui l'amuse maintenant, bah, c'est son nouveau gros méchant. C'est Christian Bale. Christian Bale, qui est un monstre en noir et blanc, déçu par les dieux, déçu par la religion, qui dit « Bah voilà, la religion m'a déçu, la religion m'a trahi, les dieux sont des cons, et bah moi je vais les massacrer ». Et il est super ce méchant. Et en fait, la mise en scène de Taika Waititi ne s'intéresse qu'à ce méchant-là, ne veut le mettre qu'en avant. Il y a des scènes incroyables avec des attaques d'ombre et tout, c'est vraiment beau. Mais c'est 25 minutes du film. C'est 25 minutes sur 1h50 où on s'emmerde quand même très très fort. Où on a des blagues sur le pipi, sur le caca, où on a une relation amoureuse qui est horrible en plus, parce qu'ils nous font revenir le personnage de Jane en lui disant « Eh regardez, on fait revenir le personnage que vous aviez oublié depuis 8 ans. Dommage, il a un cancer !» Vraiment, c'est vraiment ça le film. C'est 1h20 d'ennui et vraiment c'est pas drôle, c'est juste lourd et gênant pour avoir 30 minutes avec un méchant vraiment cool où la mise en scène est intéressante. Et là, bah, pour 30 minutes de plaisir pendant 1h20, on s'ennuie. On dirait mes relations avec mes ex, et vraiment, c'est terrible comme histoire.
Mais
terrible.
Cette année, vous n'étiez pas très copain avec les Marvel.
Mais non, mais parce que j'aimerais bien des bons films, bon en fait. Mais non, bah parfois voilà. Marvel fait du bon cru, et parfois, j'ai pas de jeu de mots, j'ai aucun jeu de mots là-dessus. Aucun. Mais non, Thor 4, quelle déception.
Bon, on change de registre avec un film, je sais que vous l'avez beaucoup aimé, Les Nuits de Machad, qui était présenté cette année au Festival de Cannes, en compétition officielle du réalisateur Ali Abbasi. C'est un thriller iranien saisissant qui suit l'enquête périlleuse d'une journaliste sur un tueur de prostituées qui sévit dans les rues de la ville sainte de Machad, avec une actrice absolument sublime qui a remporté la palme de la meilleure actrice.
Tout à fait, et c'est un moment assez incroyable qu'elle le remporte, ce prix-là, parce qu'elle n'a plus le droit de retourner en Iran, elle est bannie du pays, et ce depuis...
Maintenant, Zahra Amir Ebrahimi.
Exactement, elle est bannie depuis 10-15 ans d'Iran, parce qu'une vidéo de ses ébats sexuels avait filtré sur Internet, et que, pour pouvoir sauver sa vie, elle a dû quitter le pays. Et c'est intéressant parce que ce que raconte Les Nuits de Machad, c'est l'histoire d'un tueur en série qui s'en prend aux femmes, donc voilà, on revient en plus à la nuit du 12, et la question là se pose sur l'inverse de la nuit du 12. Là où sur la nuit du 12, on ne sait pas et on ne saura jamais qui est le tueur, là on le sait et on va l'accompagner. Et on va être aux côtés du tueur qui a comme mission sacrée de tuer des prostituées. Ce qui est quand même terrible, ce qui est quand même horrible. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des gens. Parce que dans le pays, certains vont avoir tendance à trouver que c'est un héros. Le film, dans son titre original, c'est Holy Spider, qui est le titre normalement du tueur, qui est vraiment l'araignée. La question se pose à ce moment-là, c'est nous, de notre regard d'occidentaux, on regarde ça en se disant bah, c'est absolument abject, mais pour certains c'est une délivrance.
Et surtout en se disant c'est de la fiction.
Et pourtant, c'est adapté d'une situation réelle. Allez voir Les Nuits de Machad, allez le voir en complément de La Nuit du 12, comme ça au moins vous passez une bonne journée.
Voilà.
C'est un bon moment. Ouais. Et puis, il doit y avoir encore Les Mignons 2 en salle, vous terminez là-dessus.
C'est ça.
Ça devrait vous remonter le moral.
Et alors, le lendemain, moi j'ai une proposition pour vous, hein, pour être dans quelque chose de beaucoup plus feel-good et familial. C'est Ducobu, président. Le plus
ça change, effectivement. Il y a moins de personnes assassinées, j'imagine.
Il n'y en a même pas du tout.
Ah, bah, très bien.
Et ça fait du bien. Donc, c'est le plus attachant des mauvais élèves, hein, l'élève Ducobu qui revient pour la quatrième fois au cinéma, Ducobu président. Cette année, c'est l'élection du président des élèves et Ducobu gagne les élections en trichant, bien évidemment. Toute l'école va changer, hein. Plus de légumes à la cantine, des toboggans dans la cour, bref, c'est un grand bazar qui ne va pas plaire à tout le monde et surtout pas à Monsieur Latouche, joué par Elise Moon. C'est Elise Moon également qui réalise.
On va voter pour élire le président des élèves. Votez malin, votez grassin.
Moi aussi, je vais me présenter. J'ai vraiment plein d'idées pour améliorer l'école.
Votez Ducobu.
Monsieur Kietrich, vous êtes là ?
Je déclare Ducobu président des élèves.
Isolation, on touche le fond.
On a voté pour toi, Ducobu !
C'est la cisanie !
Et pour parler de Ducobu président, Elie Semoun, président, est avec nous. Merci Elie.
Elie Semoun, président.
Voilà, transition.
Elie Semoun, ministre de la culture et de l'humour.
Oui, complètement.
Ministre des enfants.
Ministre bon. Des enfants, ça c'est sûr. Bon, c'est le grand retour de Ducobu. C'est la quatrième adaptation de Ducobu pour le cinéma. La deuxième fois que vous le réalisez. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce Ducobu?
Bah, d'abord, je vais vous dire une phrase qui pourrait me valoir la prison, mais j'adore les enfants.
Ouais.
J'adore le monde. On est en 2022 maintenant, on a peur
on
de
tout. On peut plus rien dire.
Mais non, c'est horrible. Enfin, moi, je m'en fous, je le dis parce que c'est la vérité. Je trouve que, enfin, même côtoyer des gamins, les diriger, c'est très très dur. Honnêtement, j'ai parfois pété un câble quand j'étais sur le tournage. Enfin, pété un câble. Je leur hurlais pas dessus, bien sûr.
Pas comme
mais,
votre personnage.
Mais en privé, j'en pouvais plus, quoi, parce que. Ils n'étaient pas concentrés, ils ne comprenaient pas ce qu'ils jouaient, ils ne comprenaient pas les indications que je leur donnais, etc. De quoi s'arracher les cheveux. Mais honnêtement, on y est arrivé évidemment, mais honnêtement, quand on voit le résultat, et vous avez vu le film,
complètement.
Il n'y a pas un acteur qui joue mal, il n'y a pas un enfant qui joue mal. Ils sont tous très justes. Gabin qui fait non prédestiné, qui fait Ducobu, il est formidable.
Il est justement, j'allais dire, je le trouve génial dans le rôle.
Ouais, il est génial. Les filles autour de lui sont super. Donc j'ai galéré, j'ai beaucoup dépensé d'énergie, mais honnêtement, ça en valait la peine parce que le film est chouette et je crois même que j'ai upgradé. Enfin, là, je fais vraiment de l'autosatisfaction. Mais d'après ce qu'on me dit, Ducobu président est meilleur que le 3, donc je suis ravi parce que. On a super bien travaillé, on s'est creusé la tête, on a essayé de faire un film avec une double lecture, que ce soit drôle pour les parents comme pour les enfants.
Et puis surtout, surfe avec toutes les problématiques actuelles. Hein. C'est un film qui parle aussi de l'environnement, de la pollution, de l'enseignement et de la politique. Alors la politique, enseigner aux enfants hein, avec des phrases comme « mentir pour se faire élire », c'est ça la politique. Tous les coups sont permis, c'est ça la politique. Et c'est vrai que c'est... Finalement, c'est pas si simple de trouver le bon ton pour parler aux enfants.
En fait, détrompez-vous. Je m'aperçois que, enfin, c'est pas une grande découverte. Hein, c'est pas moi qui l'ai découvert, mais le monde de l'enfance ressemble beaucoup au monde des adultes et vice versa. Sauf que les adultes ont plus de moyens que les enfants financiers, donc ils peuvent satisfaire à tous leurs désirs. Mais honnêtement, un homme politique, il est tout aussi ridicule qu'un enfant qui trépigne pour avoir des bonbons. Hein. Donc c'était pas si compliqué en fait.
Moi en tout cas j'ai passé un excellent moment. Donc je vous rappelle donc que Ducobu président c'est en ce moment au cinéma. Donc voilà, vous terminez l'écoute de Clap et ensuite vous pouvez partir au cinéma. Merci.
Allez-y.
Et on vous
et
souhaite
si vous
plein
n'y allez
de bonnes
pas,
choses.
Vous allez au coin.
Ah ouais, c'est vrai. Ou pire, vous redoublez.
Ouais, exactement.
Merci Elise Moon. Ouais.
Merci Laurie.
Merci Franck et Victor, on se retrouve la semaine prochaine.
Mais trop bien. Quelle bonne nouvelle.
On va passer tout l'été ensemble.
Je vais même rester là jusqu'à la semaine prochaine. Je vais me planquer sous une table.
On bouge pas. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec William Lémergie. Donc, vous l'aurez compris, nous, on sera là la semaine prochaine, samedi 10h. Très bon week-end à vous à l'écoute d'Europe 1.